Bon réveil, si vous nous rejoignez, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. C'est une occasion manquée dans la bataille de l'Union européenne contre le dérèglement climatique. Les 28 échouent à adopter la neutralité carbone d'ici 2050. La Pologne et 3 autres pays ont refusé l'accord. Nous y reviendrons dans un instant, alors que les pays membres n'ont par ailleurs toujours pas trouvé de nom pour présider la Commission européenne.
Donald Trump a approuvé une opération militaire contre des installations iraniennes, mais il s'est ravisé au dernier moment, selon le New York Times. Tension au plus haut entre Washington et Téhéran.
Le programme alimentaire mondial suspend une partie de son aide envoyée au Yémen en pleine guerre. L'Arabie Saoudite qui y participe est de plus en plus critiquée et ses alliés économiques aussi, vous l'entendrez.
Dans ce journal encore, compte rendu d'audience au procès France Télécom hier, l'un des 8 prévenus s'est exprimé à la barre.
Et puis à l'occasion du salon au Bourget qui ouvre ses portes au public aujourd'hui, nous nous intéresserons à l'emploi dans l'aéronautique. Le secteur a du mal à recruter. Après cette édition, le billet politique, Stéphane Robert analysera l'engagement politique intermittent. Mais d'abord, partons dans la Ruhr en Allemagne, premier bassin industriel d'Europe de l'Ouest, région minière surtout. Près de 5000 Européens s'y sont donné rendez-vous pour demander une sortie rapide du charbon. L'Allemagne table sur 2038, trop tard, répondent les manifestants, des jeunes pour beaucoup. Ils s'organisent donc depuis quelques heures maintenant pour bloquer des mines entre Cologne et Düsseldorf. C'est un reportage de notre correspondant Ludovic Piétonu.
Elle était déjà là l'an dernier. Marfacus, c'est son pseudo, 25 ans, qui vient de région parisienne, a déjà tenu 23 heures sur des rails menant à la mine. Après avoir franchi plusieurs cordons de police, traversé une autoroute et marché pendant 10 heures.
C'est assez fatigant comme façon de marcher parce qu'il faut rester très attentif tout le temps à tout ce qui se dit, à tout ce qui se passe, à tous les gestes, avec nos sacs.
Il faut cette année avoir de quoi tenir 48 heures. Nourriture, eau, couverture de survie, mais avant l'action, passage obligé pour tous hier après-midi par des ateliers de formation.
Pour que l'information circule sur 1000 personnes, il y a des gestes, il y a des cris qui permettent de transmettre l'info. Par exemple, si quelqu'un crie « Mike, check », tout le monde répète « Mike, check ». Là, tout le monde est censé se taire. Et donc la personne qui a crié en premier « Mike, check » lance la phrase qu'elle veut dire ou une partie de la phrase. Les gens répètent et ça se transmet dans le finger jusqu'au bout, comme ça par vague, et comme ça tout le monde a l'info. Et c'est super efficace en fait.
Cette jeune Française avoue une certaine lassitude pour les manifestations plus classiques. Avec la désobéissance civile et une opération de cette envergure, elle s'y retrouve davantage.
On vient de toute l'Europe pour le même but, ici très très jeune. C'est vraiment très porteur aussi en se disant y a une reprise du flambeau par les jeunes.
Et s'ils vont se tenir les uns aux côtés des autres, Marfacus, comme tous les autres participants, ne connaîtront à aucun moment de leur progression leur objectif, sauf à la toute fin, pour ceux qui y parviendront.
Ludovic Piétonu dans la région de la Ruhr pour France Culture. La fin du charbon, justement, sera-t-elle possible dans l'Union européenne ? La France, finalement soutenue par l'Allemagne, espérait hier obtenir un consensus sur une neutralité carbone en 2050. Mais les 28 réunis à Bruxelles pour un Conseil européen n'ont pas réussi à se mettre d'accord, Angélique Boin.
Ne pas émettre plus de gaz à effet de serre que son territoire est capable d'en absorber grâce notamment à ses sols ou ses forêts, c'était l'ambition du petit groupe de pays, France en tête, qui avait mis sur la table il y a 3 mois seulement cet objectif ambitieux. C'est raté, mais de très peu. Après le ralliement de l'Allemagne, la majorité des États membres avaient suivi, mais 4 ont bloqué, la Pologne en particulier. Pas question pour son Premier ministre de donner son feu vert sans garantie précise. Les débats ont buté hier sur la façon d'aider financièrement les pays les moins riches et les plus dépendants du charbon pour leur transition énergétique. Pas d'unanimité donc, mais une avancée notable saluée par Paris. Les dirigeants des 28 pays de l'Union ont également peaufiné leur agenda stratégique pour les 5 ans à venir. La protection de l'environnement y tient une large place. Nous devons construire une Europe climatiquement neutre, verte et transformer en profondeur nos économies, est-il écrit. Au lendemain d'une élection qui a vu les Verts progresser de façon spectaculaire en Europe, les dirigeants européens se savent attendus sur le sujet par leurs citoyens.
Attendu, mais pas encore d'accord donc. Pas d'accord non plus sur le ou la future chef de la Commission européenne. Les 28 pays membres et leurs dirigeants se retrouveront le week-end prochain. Officiellement, il n'y a plus de candidats, car les 3 prétendants, faute de consensus, sont écartés, que ce soit la Danoise Margrethe Vestager, le Néerlandais Frans Timmermans ou encore l'Allemand Manfred Weber. Les avions américains avaient décollé. Les navires étaient en position, prêts à frapper des installations militaires iraniennes sur ordre de Donald Trump. Mais selon le New York Times ce matin, le président américain s'est finalement ravisé. Une colère maîtrisée donc, après qu'un drone ait été abattu hier matin par l'Iran près du détroit d'Ormuz. Ce matin, Washington a interdit les vols commerciaux américains dans l'espace aérien iranien. Téhéran, de son côté, dit avoir des preuves irréfutables que le drone américain a bien volé dans son espace aérien. Pour plus de précisions, notamment sur la colère de Donald Trump, vous pouvez réécouter la revue de presse internationale de ce matin en podcast ou sur notre site franceculture.fr. L'Arabie Saoudite, critiquée de toutes parts pour son implication dans la guerre au Yémen. Hier, le Sénat américain a bloqué une vente d'armes en direction de Riyad. Londres a également suspendu, sur décision de justice, l'attribution de nouveaux contrats de vente d'armes. Et la France, elle, ne fait rien, pour le moment, ne dit rien. Elle pourrait donc devenir complice, selon l'association Human Rights Watch, son directeur adjoint au Pôle Monde, Philippe Bolopian.
Non seulement la France est trop indulgente avec l'Arabie Saoudite, mais elle est presque à la limite complice de certaines des violations commises par l'Arabie Saoudite au Yémen en particulier. Il est clair que les autorités françaises font tout pour ne pas reconnaître qu'il est grand temps d'arrêter de vendre des armes à l'Arabie Saoudite pour des raisons morales, pour des raisons légales, tout simplement parce que il est clair depuis plusieurs années maintenant que l'Arabie Saoudite commet des violations graves des droits de l'homme au Yémen. Tout le monde le sait, ça a été documenté par Human Rights Watch, Amnesty International, par l'ONU. Et malgré cela, les autorités françaises s'entêtent à vendre des armes à l'Arabie Saoudite, ce qui non seulement se fait au détriment des civils au Yémen, mais je dirais aussi sape la crédibilité de la France sur les questions de droits de l'homme.
Des propos recueillis par Nathanaël Charbonnier. La guerre au Yémen encore et cette menace mise à exécution. Le PAM, le Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies, suspend partiellement son aide humanitaire dans le pays. Elle n'arrivera plus dans les zones yéménites qui sont sous le contrôle des autorités basées à Sanaa. Le PAM invoque un risque de détournement de cette aide par les milices houthis. Plus de 10 millions de yéménites dépendent de ces rations alimentaires. Près de 10 000 personnes sont entrées hier dans l'enceinte du Parlement en Géorgie en forçant un barrage de police. Scène de heurts qui ont fait 39 blessés côté forces de l'ordre, 30 côté manifestants. Les protestataires contestaient l'entrée au Parlement d'un législateur russe, Claude Bruyot.
Le faux pas protocolaire qui a permis hier à un député russe de prendre la parole à l'endroit dédié au président de l'Assemblée géorgienne a servi de déclencheur à ces rassemblements aussi spontanés que massifs devant les bâtiments concernés à Tbilissi. S'il se confirme que Ivanishvili, le principal opposant au pouvoir actuel, n'est en rien l'instigateur de ces manifestations, alors le fort mécontentement de la population locale est d'autant plus inquiétant, notamment pour le président du Parlement appelé déjà à démissionner. Car ce qui n'était au départ qu'une simple rencontre annuelle entre parlementaires issus du monde orthodoxe pourrait déclencher une crise politique. Les Russes, à partir du moment où ils représentent à Tbilissi leur pays officiellement, ne peuvent être perçus comme des diplomates comme les autres. La guerre éclair de 2008 avec la perte de l'Ossétie du Sud et ses images de chars et avions russes quasiment à portée de tir de Tbilissi sont encore dans beaucoup de mémoires géorgiennes, la plupart voyant encore la Russie d'aujourd'hui comme un véritable occupant.
Au chapitre des rassemblements contestataires encore, notons qu'à Hong Kong, des centaines de manifestants bloquaient ce matin l'une des artères principales devant le Parlement. Ils dénoncent toujours le projet de loi qui autorise les extraditions vers la Chine continentale, projet suspendu mais pas retiré. La foule réclame également la démission de la chef de l'exécutif pro-Pékin. Hier, Carrie Lam a déclaré qu'elle ne céderait pas malgré les manifestations historiques des dernières semaines.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal dans les matins. Écoutons maintenant ce qui se dit au procès France Télécom.
Il dure depuis plus d'un mois et demi. 8 personnes sont jugées pour harcèlement moral et complicité après le suicide de 19 salariés dans les années 2000. Parmi les prévenus, l'ancien numéro 2 du groupe France Télécom, Louis-Pierre Vénès. Il a évoqué hier les réorganisations dans l'entreprise, Antoine Marette.
Louis-Pierre Vénès a été cost-killer chez France Télécom, chargé de réduire les coûts. Il est le concepteur du fameux plan Next qui est au cœur de ce procès. Ce centralien de 70 ans avait à France Télécom la réputation d'être craint. À la barre, il explique son dilemme. Sans fioriture, on a des métiers où on a besoin de moins en moins de personnes et on a l'obligation de leur fournir un travail. On a entendu que les plans Next et Act étaient anxiogènes par nature pour engendrer 22 000 départs, lui rappelle son avocate. Louis-Pierre Venesse marque un silence. « Bien sûr que non, je ne comprends même pas qu'on me pose la question », s'indigne-t-il. « Moi j'avais envie d'emmener tout le monde, mais on n'avait pas de travail pour tout le monde ». L'homme se voit comme un skipper. Il explique qu'il a fondu en larmes lors du tournage d'un documentaire de Serge Moati consacré à France Télécom. « J'ai pas voulu que ça passe car sur un bateau, l'équipage ne doit pas voir que le skipper tremble. Comment pensez-vous que la destruction de tous ces postes peut se faire? C'est quand même énorme », s'étonne l'avocate de Sud, maître Sylvie Topalov. Le ton monte. « Que voulez-vous me faire dire ?» répond le prévenu. C'est jamais facile quand les gens partent.
C'était un compte-rendu signé Antoine Marette. Pour reconstruire la droite, ils investissent les territoires. Le président du Sénat, Gérard Larcher, est attendu par Xavier Bertrand cet après-midi à Valenciennes. Il débute un tour de France. Il y sera question cet après-midi de la réindustrialisation. Et l'industrie aéronautique en France, justement, notamment, elle se porte bien. Les constructeurs ont leur carnet de commandes plein pour les 8 prochaines années. Voilà ce qu'ils disent en ce moment au 53e salon du Bourget. Et qui dit commandes, dit également recrutement. Cela ne va pas s'arrêter, précise au micro d'Hakim Kasmi Jean-Luc Bérard. Longtemps DRH chez Safran, il est directeur du comité exécutif du groupe.
Nous arrivons aujourd'hui à la fin d'une génération très importante qui a été embauchée dans la fin des années 70, début des années 80, qui va nous quitter dans les années qui viennent. Et nous sommes donc confrontés à la fois à un très fort renouvellement générationnel, à une croissance d'activité phénoménale par rapport à ce qu'on a connu depuis toujours, et à des changements de métiers. Ça veut dire que dans des métiers relativement traditionnels, d'ingénieurs, mécaniciens, d'ingénieurs plus courants en termes de formation, cela, on va simplement, si je puis dire, renouveler la population qui s'en va. Et puis, vous avez toute une série de personnes et de compétences surtout, qui vont probablement poser un petit peu plus de problèmes. Ce sont tous les métiers qui tournent autour des métiers nouveaux. Les architectes systèmes, ça sont vraiment des gens que tout le monde s'arrache aujourd'hui. Les ingénieurs qui vont travailler dans tout le domaine de l'électrique. Donc les grands enjeux, c'est ça, c'est l'électrique, les matériaux, la gestion des données, le numérique. Tous ces métiers-là vont générer beaucoup plus d'activités que par le passé. Par la force des choses, ce sont des activités nouvelles. Et donc, nous allons devoir affronter une concurrence de recrutement plus importante que par le passé et faire face à un accroissement d'activités qui est très important.
L'emploi en France, le travail, encore avec notre grand reportage de la semaine, il est consacré à l'Organisation internationale du travail. L'OIT fête ses 100 ans cette année. C'est la plus ancienne institution internationale. Sa conférence annuelle se termine d'ailleurs ce soir à Genève. Et nous ferons le point sur ses promesses, sur son utilité aujourd'hui lors du grand reportage de la rédaction de France Culture. Vous entendrez ce soir, entre autres, Alain Supiot, juriste. Il est le seul membre français de la Commission sur l'avenir du travail. Il explique à Marie Viennot ce que pourrait être une organisation internationale du travail réinventée avec notamment une déclaration des responsabilités. Voici un extrait.
Si vous voulez, après la Seconde Guerre mondiale, on a raisonné en termes de droits. On distribue des droits aux êtres humains comme on distribuerait des revolvers et on dit ensuite que le meilleur gagne. Mais la distribution de droits n'a de sens qu'au regard de distribution de responsabilités. Or, l'un des traits caractéristiques de l'organisation contemporaine de l'économie, c'est qu'elle permet de dissocier les lieux d'exercice du pouvoir des points d'imputation de la responsabilité. Donc, l'OIT pourrait être cette espèce d'agora, de forum, où les multinationales qui sont sincèrement soucieuses de jouer un rôle positif à la fois sur les plans de la responsabilité sociale et environnementale, puissent échanger leurs expériences, prendre des engagements sous l'égide d'une organisation qui en est garante. Et à ce moment-là, on pourra dire qu'elles sont sérieusement responsables s'il y a un garant des engagements qu'elles prennent. Tant qu'il n'y a pas de garant, vous pouvez toujours dire tout ce que vous voulez. On n'est pas vraiment dans de la responsabilité. Tout ça, ce sont des opportunités pour l'OIT. Mais ça supposerait une détermination politique que peut-être de façon constitutive, elle est devenue incapable d'avoir.
L'OIT 100 ans et maintenant, c'est un grand reportage de Marie Viennot à écouter en longueur à partir de 17h sur France Culture. Il est réalisé grâce à Annie Brault et il sera suivi d'un débat animé par Aurélie Kiefer. Mais avant cela, en cette matinée du 21 juin, nous parlons d'art, d'œuvres d'art sur l'antenne de France Culture. Avant de reprendre après le journal la discussion sur Gustave Courbet et en ce jour de fête de la musique, nous nous intéressons à la restauration d'instruments de musique devenus au fil des décennies, au fil des siècles, des œuvres d'art. Le musée du Quai Branly à Paris a lancé une campagne de financement participatif. Elle se termine dimanche et l'argent récolté permettra de restaurer 130 instruments de musique d'une grande valeur historique. Visite des lieux micro en main avec Adrien Palluet.
L'atelier de restauration se trouve au sous-sol du musée. 130 instruments anciens ont été sélectionnés pour être restaurés. Pour l'instant, 4 tambours sont posés sur une table.
On a effectivement des tambours, mais on a aussi des luths. On a également des flûtes. On a des orgues à bouche. On a des sonnailles, c'est-à-dire des objets qui sont plutôt de la famille des cloches.
Éléonore Kissel, responsable du pôle conservation et restauration du musée.
Nous avons tout d'abord, c'est le plus ancien des instruments qui se trouve sur cette table, c'est un tambour qui a une forme un peu ovoïde, qui n'a qu'une seule peau et qui représente la course diurne et la course nocturne des rennes. C'est un tambour évenque qui vient donc de Sibérie, qui est utilisé dans le cadre de cérémonies et qui permet d'entrer en relation avec les mondes de l'au-delà.
Pour restaurer ces objets, le musée a besoin de 150 000 euros. C'est pour ça qu'en mars, une campagne de financement participatif a été lancée. Vous avez jusqu'à dimanche pour donner. L'objectif, récolter 60 000 euros. Ensuite, le travail commence à l'automne. Tous les restaurateurs sont sur le pont, comme Clotilde Castelli.
Alors ce tambour, il a un problème de déformation importante, donc de la peau dont les attaches ont cédé. Et donc le traitement consistera à remettre en forme cette peau de manière à lui rendre sa planéité et d'essayer, dans la mesure du possible, en raison de son état qui ne peut plus revenir en arrière, on peut la retendre comme elle était à l'origine, quand elle était tendue fraîche, mais en tout cas la repositionner et la refixer sur le cadre.
Et patience, ces instruments, vous pourrez les admirer, mais seulement l'an prochain, lors de la fête de la musique 2020, avec un concert de musique africaine.
C'était un reportage d'Adrien Paluet pour France Culture. La fête de la musique 2019, elle se déroulera sous de belles éclaircies au nord de la Loire. En revanche, les pluies et les orages seront denses sur le sud-ouest, mais également sur le massif central et les Alpes aujourd'hui. Il fait ce matin 17 degrés à Lille et Rennes, 19 à Paris et Bordeaux, 20 degrés à Besançon, 22 à Lyon, 27 à Marseille et à Bastia.